chef de l'État s'est adressé ce mardi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès sur l'état de la nation. Dans son allocution, Joseph Kabila a notamment salué l'accord issu du dialogue ainsi que ceux qui l'ont signé. Il regrette cependant que le rassemblement ait manifesté peu d'intérêt à la résolution de la crise politique par le dialogue malgré les louables efforts de la CENCO. Quelle analyse faire du discours du président de la République? Pour en parler, je reçois Honorable Gaston Moussemena. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national et secrétaire exécutif national du PPRD, parti politique de la majorité présidentielle. Honorable Albert Fabrice Puella, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de l'opposition et leader du parti pour la renaissance du Congo, RECO, également membre des plateformes FAC et Rassemblement. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir Albert.
Vous êtes professeur et chercheur au centre d'études politiques de l'université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Adresse du chef de l'État ce mardi devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, Joseph Kabila se dit disposé à faire appliquer l'accord découlant du dialogue politique. Il met en garde tous ceux qui tenteraient de déstabiliser les institutions et rassure que la Constitution avait déjà réglé la question de son avenir politique. On l'écoute dans cet extrait choisi par Guy Maté.
Mon vœu le plus ardent est que conformément à l'article 24 de l'accord politique. Ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas participé à sa conclusion, puissent y adhérer en le signant, de manière à ce que, à l'unisson, nous offrions à notre peuple le précieux cadeau qu'il attend de nous, l'exercice effectif de son droit légitime, de se choisir ses dirigeants, librement, sans entrave aucune, mais aussi dans la paix physique des cœurs, que ceux qui viennent de le faire par vagues successives en soient ici félicités. C'est également dans le cadre des dispositions pré-rappelées que s'inscrivait la mission que j'avais confiée aux évêques membres de la CENCO, que je remercie au passage. En direction de ceux de membres de l'opposition n'ayant pas encore signé l'accord politique. Les résultats de leurs louables efforts témoignent malheureusement, une fois encore, du peu d'intérêt réservé par les concernés à cette quête de solution à nos différends par le dialogue. C'est ici le lieu d'affirmer que l'alternative que de l'intérieur comme de l'extérieur. Certains opposent cette option de bon sens et tout simplement inacceptable, car elle aurait pour effet de replonger notre cher et beau pays dans le chaos, comme c'est aujourd'hui le cas de certains pays frères à travers le monde.
Honorable Gaston Moussemena, vous êtes député national et secrétaire exécutif national du PPRD, parti politique de la majorité présidentielle. Commençons par votre analyse de façon globale du discours du chef de l'État. Comment vous l'avez perçu?
Je crois que vous avez suivi le chef de l'État lorsqu'il s'est adressé au Congrès. Et vous avez suivi combien le participant a acclamé le chef, parce que nous pensons que c'était un discours de vérité. Un discours de vérité qui s'est basé particulièrement sur les bilans. Les bilans, non le bilan de ses deux mandats légaux, mais le bilan de toute sa vie au sommet de l'État. Voilà pourquoi le chef de l'État a commencé par rappeler que ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Il a l'obligation chaque année de présenter l'état de la nation au niveau du Congrès, mais cette fois-ci, en toute responsabilité, le chef de l'État a décidé de dresser un bilan exhaustif de sa présence au sommet de l'État pour que quiconque ne puisse le juger à partir de la dernière année, pour que tout le monde comprenne que ce pays vient de quelque part. Quand il a accédé au pouvoir en 2001 à la suite de l'assassinat de son père, vous vous en souvenez tous, il vous a fait les clichés de ce qu'était le pays. Et au regard de tout cela, il a abouti à démontrer que beaucoup de choses ont été faites, voulais-je dire, mais qu'il y avait encore
que les défis beaucoup sont
de défis.
Énormes.
Il y avait encore beaucoup de défis à relever. Mais au moins, lui, pendant tous ces temps, pendant ces 15 années, avec ses collaborateurs, il a bousculé, il a boosté, il a fait progresser le pays jusqu'à un certain niveau. Et les défis qui restent, ensemble, nous pourrons continuer.
Alors, honorable, le président de la République a affirmé que la Constitution n'a jamais été violée et qu'il fera respecter, il va la respecter dans toutes ses dispositions. Il y a Justin Fatah qui abané à de Baraka qui dit le président Kabila confirme qu'il va respecter la Constitution. Ceci le dit tous les jours. Alors, au-delà du 19 décembre 2016, sera-t-il en train de respecter la Constitution ou la violer intentionnellement?
Je crois que si nous tous, nous comprenons le sens des paroles du chef de l'État, nous devons aisément comprendre que le respect de la Constitution, c'est dans sa globalité. Et ceux-là qui avaient la charge d'interpréter la Constitution l'ont fait, l'ont si bien fait, en spécifiant clairement que le chef de l'État, il est vrai qu'il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois, mais que au regard de la linéa D de l'article 70, il a l'obligation, lui, chef de l'État, pour ne pas laisser un vide au sommet de l'État, il a l'obligation de passer les flambeaux à celui-là qui pourra les remplacer après élection. Voilà la compréhension du respect de la Constitution, l'esprit et même la lettre, parce que la Cour constitutionnelle a déjà donné son avis là-dessus avec son arrêt. Je crois que tout le monde devrait comprendre. Et lorsque le chef de l'État a parlé, il faut aussi comprendre en cela qu'il se limitera à ses 2 mandats constitutionnels tels que prescrits dans notre constitution actuelle. Sauf si le souverain primaire a décidé autrement, mais en tout cas, lui, il va s'en tenir aux prescrits de tous les articles de la constitution qui limitent à ce jour le mandat d'un chef de l'État qui a déjà fait des mandats
et voilà. Voilà tout. Et donc, le souverain, si le souverain primaire le demandait, dites-vous, on a suivi le professeur Trifon Kinke Moulumba dire que cette constitution pouvait être révisée et qu'il n'y a pas, il n'existe pas des constitutions où il y a des dispositions aussi verrouillées que la nôtre. Et donc, si le peuple le voulait, comme vous le dites, ça pourrait passer par un référendum.
Le point de vue du professeur Kinki est très valable, mais la dernière décision revient au peuple congolais. Voilà pourquoi j'ai évoqué le précis de l'article 5. Et le chef de l'État en a aussi fait allusion lorsqu'il demande que tout le monde reconnaisse la souveraineté du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui pourra décider du sort de ce pays s'il veut qu'on modifie. Mais à ce jour, tout le monde sait que ce peuple tient alors, je dis bien, au respect de la Constitution telle qu'elle a été adoptée à ce jour.
Alors, le président de la République regrette, nous le disions, le fait que le rassemblement ait manifesté peu d'intérêt à la résolution de la crise politique par le dialogue, malgré les louables efforts de la CENCO. Est-ce que le président de la République voudrait dire que la CENCO a raté sa mission, qu'elle a échoué?
Le chef de l'État est resté égal à lui-même, Joseph Kabila, vous connaissez, quand il a accédé au pouvoir, toutes les ouvertures qu'il nous a permis de montrer à la face du monde pour avancer les pays. Et avec cet esprit, il a gardé sa politique de la main tendue, jusqu'au même à arriver à frôler le non-respect de l'accord, tel que cela a été retenu au niveau de la cité de l'Union africaine, parce qu'il fallait à tout prix que nos partenaires, que nos frères, que nos compatriotes du rassemblement, qui ont à peu près le même esprit que nous, qui veulent qu'on respecte la Constitution, puissent et aussi revenir à la raison, parce que nous devons éviter à ces pays les chaos. Nous avons besoin de la paix. Et le chef de l'État a demandé service à la CENCO, qui a l'avantage d'être accepté par tous les partenaires, et ça m'est tendu et resté sans,
n'a pas eu de réponse
sans réponse claire. Il a regretté, mais tel que tout le monde connaît le chef de l'État, sa main restera tendue, même au-delà de la mise en œuvre de l'accord de la Cité de l'Union africaine.
Merci, honorable. Honorable Albert Fabrice Puella, vous êtes député national de l'opposition et leader du Parti pour la Renaissance du Congo, RECO, et membre des plateformes FAC et Rassemblement. De façon générale aussi, en ce qui vous concerne, comment vous avez analysé le discours du chef de l'État?
Merci beaucoup, monsieur Alain Rung. Je salue mes co-débatteurs. C'est 15 novembre, c'est un jour de deuil. Pourquoi? C'est un jour d'opprobre parce que nous avons davantage montré la face du monde que nous avons une vraie crise de leadership, que nous manquons à la tête de notre pays un vrai homme d'État. Parce que lorsque nous suivons ce discours...
Est-ce que ce n'est pas trop fort quand on s'adresse au chef de l'État?
Excusez-moi, je l'ai dit en toute responsabilité. Parce que lorsque M. Mende, un des membres du gouvernement, dit que M. Kabila c'est un homme taiseux, alors il aurait pu, en tout cas en notre sens, ne pas aller dans le sens parce qu'il a défié non seulement le peuple congolais, mais il a également défié la communauté internationale qui, il y a à peine 48 heures, était les membres de cette communauté au travers des représentants du Conseil de sécurité, était avec lui. On lui a dit que l'accord du Camp Tchatchi de la Cité de l'Union africaine, si on préfère, n'était qu'une étape vers justement la solution concertée à la crise que lui, M. Kabila, a créé et est en train d'entretenir. Mais malgré cet effort, ce déplacement de ces hauts diplomates, il a préféré au fait leur dire que je ne vous connais pas, notre pays est souverain. La souveraineté qu'on évoque tout simplement lorsqu'on fait des reproches, lorsqu'on vous fait des propositions, mais à travers lesquelles vous ne trouvez pas votre compte, là, ça devient de l'ingérence. Et nous trouvons cela, c'est une attitude très irresponsable. Et même ce discours est irresponsable. Vous avez posé la question.
C'est quand même des termes trop forts, honorable Puella.
Oui.
Quand vous parlez d'un discours irresponsable.
Effectivement, c'est irresponsable parce que nous avons eu l'impression que celui qui a parlé aujourd'hui, nous nous demandons est-ce qu'il vit au Yémen de l'Afrique ou il vit au Rwanda ou en Tanzanie ou quoi. Parce que lorsqu'il dit n'ayant jamais été violé, la constitution sera... Est-ce que cette constitution n'a jamais été violée? Est-ce qu'on a respecté l'article 73 qui impose à la CENI de convoquer les scrutins pour l'élection présidentielle? Est-ce que cette disposition est respectée? Est-ce que la liberté de la presse est respectée? Vous venez d'en faire les frais, je parle de Radio Capi. RFI, qu'est-ce qu'elle peut encore diffuser en modulation de fréquence ici? Est-ce que la liberté de manifestation est encore garantie dans ces pays? Les 40% dit aux provinces. Est-ce que dans ces pays, on n'a pas nommé de commissaires spéciaux? Et ça, c'est respecter la Constitution. Je peux égrener jusqu'à me fatiguer les cas de violation de la Constitution. Nous pensons que c'était très irresponsable ce discours qui a été tenu parce que lorsque nous, on dit, et ça c'est un langage très fort, c'est pourquoi les jeunes doivent se prendre en charge. On dit que les jeunes, au fait, on ne les a jamais engagés dans un processus d'intégration socio-économique. Donc pendant 16 ans, cela dit 15 ans en fait, c'est 15 ans et 10 mois aujourd'hui, jour pour jour, parce que quand même les 16 que cela est arrivé, en 15 ans et 10 mois, on ne s'est jamais intéressé aux jeunes. Le taux de chômage, il l'a dit, je le reprends, 84% du taux de chômage, et c'est à peine qu'on veut intégrer. Donc nous avons suivi un homme tout suffisant, tout arrogant, et pour nous, nous trouvons que c'est un défi lancé au peuple congolais, lancé à la communauté internationale. Nous sommes excessivement déçus et nous pensons que il revient au peuple congolais de se prendre en charge parce que sa constitution est violée à longueur de journée. Oui.
Alors, honorable Puella, vous dites que l'accord de la Cité de l'Union africaine, vous paraphrasez la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui a clôturé sa visite ce week-end ici en RDC. Vous dites que l'accord de l'Union africaine n'était qu'une étape, mais au niveau du rassemblement, vous avez refusé la main tendue du président de la République, il l'a dit.
Nous n'avons jamais refusé cette main tendue. Nous avons salué, pas plus tard qu'hier, nous avons fait un communiqué, et même avant, nous avons salué la médiation de la conférence épiscopale du Congo, de la CENCO, et même nous avons donné notre feuille de route. Et la CENCO venait justement de créer un cadre de rencontre après avoir écouté les uns et les autres. La CENCO s'est préparée pour une mise en commun que majorité kabyliste élargie aujourd'hui à ceux qui sont partis les rejoindre, qu'on a vu applaudir aujourd'hui dans la salle, et nous qui estimons que les dialogues dont il est question, c'est les dialogues suivant l'esprit et la lettre de la résolution 2277, pour que nous nous mettions ensemble. Et M. Kabila a court-circuité les efforts des princes de l'Église regroupés au sein de la CENCO pour dire que non, c'est fini, j'ai fait semblant de vous donner ce travail. Au fait, je n'en veux pas, moi je dirige par défi, comme je l'ai toujours fait. Mais ça, je trouve ça assez inacceptable pour les
donc
peuples
congolais. Donc pour vous, la CENCO n'avait pas encore fini son
la
travail.
La CENCO n'avait pas encore fini la mission qui lui avait été confiée. Mais M. Kabila vient leur couper l'herbe sous les pieds. La CENCO était encore à l'œuvre. Nous, n'avez-vous pas suivi que la CENCO devait mettre ensemble et les camps de la majorité et les camps de l'opposition? Au fait, ce sont les gens qui sont partis renflouer la majorité kabyliste d'aujourd'hui qui ne voulaient aucunement entendre parler de cette mise en commun, d'un deuxième dialogue, parce qu'ils savent que, ce faisant, ils vont perdre les biftecs, leurs projets qu'ils ont de participer justement à la mangeoire, les rassemblements risqueraient de venir jouer au trouble-fête. Et pour nous, nous estimons que l'intérêt du peuple vaut plus. C'est pourquoi nous disons primature, pas de primature, nous refusons, mais les respects de la Constitution comptent plus. Je vous en prie.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Comment vous avez analysé également ce discours, professeur, de façon générale?
C'est un discours fleuve, parce qu'il a pris près d'une heure, je crois 50 minutes, quelque chose. Et ce discours a touché à beaucoup de domaines. Économique, militaire, sécuritaire. Il a
c'est quand même le bilan des 15 ans.
Exactement. Et alors, vous allez trouver également que ces discours, tant au niveau de sa rédaction que de sa logique, il n'est pas très différent des anciens discours. Et donc, comment le chef de l'État commence ses discours? Il a l'habitude de commencer par un état de lieu de ce qu'il a trouvé. Et généralement...
un état en lambeaux, notamment.
Voilà, un état de lieu de ce qu'il a trouvé, état de lieu que lui-même présente comme catastrophique. Et en fait, quand il fait cet état de lieu, il commence par 2001, c'est-à-dire par l'année où lui-même a accédé au pouvoir. Et donc, il ne prend pas en compte l'avènement de Laurent Désiré Kabila et donc il n'a pas besoin de transporter tout ce fardeau qui était transporté par Laurent Désiré Kabila. Il commence par 2001 et c'est généralement il commence par là. Il vous montre comment bien entendu il a trouvé une situation catastrophique et donc à partir de là il dit oui voilà ce que je trouvais et voilà ce que mon action gouvernementale a fait comme action. Et généralement, il présente cette action comme étant une action très élogieuse, tant au point de vue politique, il parle de réalisation sur le plan politique, sur le plan économique, il donne des chiffres, il donne des réalisations dans le domaine des transports, ainsi de suite, et donc un véritable étalage de ce qui a été entrepris par le gouvernement. Bien sûr que dans ce qu'il donne, il y a certaines statistiques qui peuvent poser débat, hein, par
sont
exemple.
Discutables.
Oui, quand il parle de taux de pauvreté, quand vous lisez les différents rapports de PNUD, on vous montre bien que la lutte contre la pauvreté, et donc là-dessus, je crois qu'il y a un certain problème.
Le taux de chômage, le taux d'accès à l'éducation.
Voilà, et combien de Congolais sont sortis de la pauvreté pendant ce temps? Et là, vous avez donc un certain débat qui peut être engagé, si évidemment on se réfère à certains documents qui circulent, tant au niveau qui ont été produits par le PNUD ou la Banque mondiale. Mais globalement, vous avez là un esprit, si vous voulez, une logique du discours qui n'est pas très différent des anciens. Même si, cette fois-ci, la tonalité et certains thèmes sont venus s'ajouter.
Alors, en parlant de la tonalité de certains thèmes, professeur, il y a, par exemple, Kassindi Mukungilwa de Bukavu qui dit qu'il trouve le discours plutôt menaçant que conciliant.
Alors, là-dessus, le chef de l'État a utilisé, a recouru, et je crois que les discours du chef de l'État, c'est toujours quelque chose il donne des idées, et puis il y a une équipe autour de lui qui... Mais finalement, c'est les discours du chef. Alors, vous avez là un recours à une conceptualisation qui, à la rigueur, semble très très sévère de temps en temps. Et vous avez par exemple des concepts comme incitation démagogique. Vous avez, il dit, miser pour accéder au pouvoir sur le sang de Congolais. Et là, il fait allusion à l'opposition. Vous avez des concepts du genre, une partie de l'opposition est devenue un terrain d'expérimentation des manœuvres insurrectionnelles. Vous avez là, véritablement, un recours à un appareil conceptuel qui est véritablement destiné à faire un peu mal à l'opposition.
Un discours belliciste.
Je dirais pas belliciste.
À la limite.
Mais cette fois-ci, il a porté des gants. Il a porté des gants. Il s'est dit bon, il faut parce que à un moment donné, il s'est dit ça ne va pas continuer comme ça. Eh bien, je vais m'assumer comme chef de l'État.
En tant que garant de la nation. Alors, professeur, le chef de l'État dit que la Constitution n'a jamais été violée. Vous avez suivi l'interprétation des deux honorables. Honorable Moussemène a dit qu'il faudrait plutôt considérer cette affirmation dans son esprit. Et honorable Pouéla pense tout le contraire.
Bon, disons qu'il faut avoir une vision un peu plus large de la Constitution et surtout de sa mise en œuvre. La Constitution, aujourd'hui, les gens ne la voient qu'au travers des dispositions sur les élections. Et pourtant, il y a d'autres dispositions qui ont été difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, eux-mêmes disent que la disposition autour de 40% qu'il fallait prendre à la source a été véritablement quelque chose d'assez difficile à mettre en œuvre. Et puis, vous avez des dispositions du genre 26%, donc 26 provinces. Vous voyez, quand vous lisez la Constitution, à partir de quelle année le pays allait avoir 26 provinces. Donc vous avez là un certain nombre de difficultés que le gouvernement a rencontrées à mettre certaines dispositions en œuvre. Mais tout cela fait partie également de l'application de la Constitution.
Alors par rapport au rôle joué à la mission confiée à la CENCO par le président de la République, professeur, comment vous analysez cet aspect? Est-ce que la CENCO a échoué? L'honorable Pouéla a dit plutôt que le président de la République aurait court-circuité la mission de la CENCO. Quelle est votre analyse?
Alors, mon analyse, à moi, c'est que la CENCO a tenté ce qu'elle a pu. Il me semble que ça a été une mission difficile pour la CENCO. Mais quand vous écoutez le chef de l'État aujourd'hui, vous avez comme l'impression qu'en fait, il y a véritablement maintenant une rupture. Une rupture du dialogue. Et donc, la rupture du dialogue ne va pas signifier que c'est fini avec le dialogue. Parce qu'en fait, il faudra qu'on voie jusqu'où l'accord sera mis en application. Si on n'arrive pas à appliquer l'accord pendant ce temps, eh bien, un blocage peut arriver. Merci. Et qui peut nécessiter une nouvelle, si vous voulez, une nouvelle session du dialogue. Et en ce moment-là, l'unique interlocuteur pour le dialogue devra être le rassemblement.
Merci,
mais j'espère que l'accord sera mis en œuvre et que ce scénario, j'espère bien.
Merci, professeur. Honorable Gaston Moussemena, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maître Joël Bungo Longbondo, je suis à Kinshasa. La crise qui traverse le pays actuellement est due, entre autres, par le fait que le président Kabila n'est pas déclaré clairement qu'il ne brillera pas et ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Aujourd'hui, par exemple, il a été souhaitable qu'il présente des excuses à la nation pour ce qui se passe et qu'il annonce sa démission le 19 décembre pour apaiser les esprits. Ne l'ayant pas fait, on est là face à un discours qui ne mérite aucun crédit, car dire que la Constitution sera respectée, c'est déjà dit et déjà entendu. Je me demande pourquoi le président de la République continue-t-il à poser des ennemis de lui à mystifier la fin de son dernier mandat. Ne peut-il pas sauver la nation, ne serait-ce par les genres du discours auquel les Congolais s'attendent le plus?
Honorable Moussemena.
Je crois qu'il y a un problème au niveau de l'opinion, parce qu'il y a quand même eu un travail de sape fait par nos amis de l'opposition qui ne croit même plus à la Constitution. Mais en tout cas, tous ceux-là qui ont suivi les chefs de l'État aujourd'hui, moi je connais d'autres qui ont complètement compris que le chef a dit au revoir aux congressistes. Mais en tout cas, je dois vous avouer que la Constitution, il y en a qui considèrent comme ça. Ils ont compris comme ça parce que le chef de l'État a martelé clairement sur le respect de la Constitution en faisant justement allusion à cet aspect de mandat. Et c'est là où le chef de l'État a parlé de son sort. Je ne sais pas comment les gens n'arrivent pas à comprendre lorsque le chef parle de son sort, en demandant à la population plus de s'occuper du Congo et non de son sort, parce que, tout simplement, son sort est bien, alors très bien explicité au sein de notre Constitution. Est-ce qu'il faudrait encore qu'on vous rappelle l'alinéa de l'article 70 qui lui permet tout simplement d'attendre que l'autre arrive? Il faudra qu'on vous rappelle l'article 54 de la Constitution qui fait du président élu sortant, parce que là c'est à la fin du mandat, qui quitte son mandat, de devenir sénateur à vie. Est-ce que c'est compliqué tout cela? Le sort du chef de l'État, comme lui-même l'a dit, est bien clarifié dans la Constitution. Je demande à tous mes concitoyens de faire confiance à tout ce que Joseph Kabila, notre président de la République, a dit. Il va respecter la Constitution et son sort ne sera que conformément à l'article 70 alinéa D, d'attendre la passation du pouvoir parce qu'il est fait mandat, et en deuxième lieu, conformément à l'article 104, se retrouver au Sénat. C'est ce que dit notre Constitution actuelle, sauf si le peuple congolais a décidé autrement. Voilà tout.
Alors pourquoi le président de la République a court-circuité, selon l'honorable Puella, la démarche de la CENCO qui pourtant n'était pas encore terminée et semblait être sur le bon chemin?
Honorable Puella, mon collègue doit rester sincère. Ce pays ne peut pas être pris en otage par leur façon de voir les choses. Une journée à 24 heures, une année à 365 jours, nous devons donc aussi savoir respecter les temps et savoir relever les défis qui sont devant nous. Le chef de l'État a demandé aux prêtres de la CENCO de prendre contact avec eux. Ils ont leur stratégie, nous connaissons, pour faire passer le temps jusqu'à ce qu'on arrive au 19 décembre. Voilà leur stratégie. Ils veulent pourrir la situation pour donner l'occasion.
Donc ils sont allés de préalable en préalable encore.
Ils ajoutent, quand bien même ils essaient d'avancer d'un petit pas, ils reculent de plusieurs pas, tout simplement pour que, au 19 décembre, ils justifient ce qu'ils ont déjà concocté, ce qu'ils ont déjà planifié. Alors, nous nous sommes dit, il faut faire échec à ce groupe d'individus qui voudraient provoquer les chaos dans notre pays. Nous, on est les défenseurs de la paix, nous allons nous battre pour que les gens continuent à vivre et que personne ne meure, parce que ça ne sera pas quelqu'un qui s'appellera Puella, ce ne sera pas quelqu'un qui s'appellera Dino, d'un autre leader de l'opposition. Nous avons besoin que les Congolais vivent et qu'ensemble nous voyons ce que nous pouvons faire, ensemble que nous voyons comment nous rattraper face à un échec qui doit être considéré comme un échec commun. J'aimerais rebondir rapidement sur ce qu'il a dit sur la Constitution à son article 73. Ce n'est pas le chef de l'État qui organise les élections, Puella le sait. Si il n'y a pas d'organisation des élections, ce n'est pas de la faute du chef de l'État. C'est la CENI qui a la responsabilité d'organiser les élections et la CENI s'est justifiée. Je ne crois pas que cela soit être considéré comme une violation de la Constitution. Et parler de leadership irresponsable face à quelqu'un qui a demain de mettre diriger ce pays pendant plus de 15 ans et qui continue à faire en sorte que ce pays avance, alors que parfois, lui, Puella, lui jette des fleurs à certaines occasions. Et aujourd'hui, il parle de leadership qui n'est pas responsable. Bon, c'est son point de vue, c'est un combat politique, je comprends. Mais 15 ans de gestion de ce pays, ça signifie qu'il y a un certain leadership.
Alors, honorable, je vais vous demander une très brève réponse avant de donner la parole à l'honorable Puella. Pourquoi, quel intérêt aurait le président de la République, lui, en tant que le père de la nation, de tenir un discours menaçant et peu conciliant, comme le pensent certains compatriotes à l'endroit de ses fils et filles?
Le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de la nation. Il est le père de tous les Congolais. Il est obligé à un certain moment de prendre ses responsabilités face à toutes les demandes, face à toutes les démarches, face à toute son humilité et sa simplicité. Merci. À un certain moment, il doit prendre ses responsabilités pour sauver le pays du chaos. Voilà ce qu'il a fait.
Merci, honorable. Honorable Puella, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimaï.
Jean-Pierre Philomba, au Québec, Rachidi, depuis le mouvement au Kassai oriental. Le rassemblement n'a pas les yeux pour voir. Toutes les démarches qu'a entrepris Joseph Kabila, et même son discours d'aujourd'hui, veut dire qu'il aime la paix. Alors, pourquoi ce rassemblement ne fait pas preuve de bonne foi, au sens du vrai patriote, d'écouler dans la même veine et arriver à un consensus durable, acceptable par tous, en vue des élections à l'avenir, apaisées et crédibles? Soyez au moins simple et respectez le peuple congolais, s'il vous plaît.
J'ajoute cette réaction de ma Mapenzi Elias Kevin Louvira qui dit « Je pense que le président de la République a tout dit, je demanderai au rassemblement d'adhérer à l'accord politique. Nous voulons la paix, nous sommes fatigués avec les violences et la guerre. » Honorable Pouila, des deux choses l'une, soit le rassemblement est aveugle, soit il rêve.
Merci beaucoup, ni l'un ni l'autre. Bien au contraire, le rassemblement avec le peuple congolais est vigilant. Nous exécutons à travers l'hymne national debout congolais. Quand on est debout, c'est pas pour être somnambule, mais c'est parce que on est éveillé. Aux compatriotes de Mbujimayi, j'aimerais dire clairement ceci, le rassemblement n'est pas aveugle. Bien au contraire, si y a certains compatriotes qui ne voient pas le rassemblement, veut aider justement les compatriotes à voir, comme nos amis de la majorité, lorsqu'ils disent que on n'a pas convoqué les scrutins pour l'élection présidentielle. J'ai beaucoup de respect à mon co-débatteur, l'honorable Moussemena, qui est un grand parlementaire. Mais il ignore qu'il y a l'article 69, effectivement, peut-être qu'il a perdu de vue, disons-le mieux, qu'il a perdu de vue qu'il y a l'article 69 qui fait du président de la République, il a rappelé il y a peu, qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. La CENI n'est-elle pas une institution de cette République? Lorsque je suis très content parce que depuis la législature passée, nous étions ensemble. Et pendant cette législature, nous votons à chaque budget, à chaque exercice budgétaire, une enveloppe, une provision pour la pérennisation du cycle électoral. Où va cet argent? N'avez-vous pas suivi avec nous la révélation faite par un petit-fils Lumumba sur le soir en Belgique? Qui aurait eu un détournement dans une banque de la place pour ne pas faire sa publicité. Pourquoi on ne peut pas réagir sur de telles dénonciations? Silence radio, parce que ça concerne la famille présidentielle. Je pense que nous devons suffisamment nous élever pour comprendre. Et même à notre compatriote, nous ne rêvons pas, nous, au niveau des rassemblements. D'ailleurs, je dois vous informer que pendant que nous parlons, il y a une très grande réunion du conseil des sages au niveau de l'IMETE pour préparer une communication que nous ferons avant la grande communication du 19, justement.
Face 19, à la FEMCO, honorable Moussemène a dit que vous êtes allé de préalable en préalable et ça n'a pas arrangé les choses.
Pas du tout, c'est pas de préalable en préalable. Nous avons reçu et nous avons salué la médiation de la FEMCO. Nous avons remis en bonne et due forme notre cahier de charges. N'est-ce pas que depuis lors, c'est nous qui demandions les dialogues avec M. Kabila, depuis qui était le premier à demander. Lorsque nous demandions les dialogues, M. Mende, je le revois encore dire, quel est dialogue. Nous avons gagné les élections. Si vraiment dans ce pays on était responsable, si on respectait la constitution telle qu'on l'a dit, pourquoi a-t-on eu des concertations nationales? Pourquoi a-t-on encore aujourd'hui ce fameux dialogue? Mais monsieur, lorsque mon co-débatteur dit que M. Kabila respecte la constitution, mais avez-vous suivi dans son discours l'évocation d'un seul article? Mais quel est l'article qui a été évoqué? C'est l'article 24 de leur fameux dialogue. Dialogue autour de leur majorité amplifiée, recomposée. Mais même pas une disposition de la constitution telle que l'a dit l'article 220, que le mandat est de 5 ans renouvelé. Pardon, l'article 70 est renforcé justement dans l'intangibilité par les articles 220. Il n'a pas cité un seul article. Mais pour nous, nous estimons que M. Kabila doit partir. Et pour nous, et nous le disons, et heureusement, parce que quand vous suivez son discours, même lorsqu'il fait le bilan, c'est comme vraiment quelqu'un qui était dans une autre planète. Quelqu'un qui a perdu une occasion, au fait, de faire un mea culpa. Que nous avons fourni des efforts, mais nous n'avons pas pu tout faire de ce que nous avons promis.
Alors, honorable Pouila, est-ce qu'avec ce discours du président de la République, oui, on peut considérer que la rupture est consommée avec le rassemblement?
La rupture pour nous, en tout cas ce qui nous concerne, la rupture est consommée parce que nous aurions voulu voir un monsieur conciliant. On a perdu une occasion d'être suffisamment élevé, comme l'a été un certain Mobutu Sese Seko Kukungwendo, le 24 avril 1990. Ayant consulté tout le monde, il a compris, non, mea culpa. Je prends congé du MPR, nous voulons commencer le multipartisme. Monsieur Kabila aurait pu le faire. Monsieur Kabila oublie au fait qu'il y aura bientôt 16 ans depuis qu'il est à la tête du pays. Lorsque la Constitution vous donne deux mandats renouvelables une seule fois, vous en faites 16 déjà. C'est même une circonstance aggravante pour que vous partiez. Parce que M. Kabila n'est pas plus important que cette République. Et puis, c'est ça qui est très important. Lorsqu'on a cette vision apocalyptique de l'avenir, ce ne sont pas les Congolais qui n'ont pas d'armes qui tuent, mais c'est plutôt les forces à la solde de M. Kabila et les services de renseignement.
Merci, honorable. Professeur Félicien Kabamba, il y a pour vous cette réflexion.
Patrick Kabeya, depuis Goma, dans la province du Nord Kivu, dans son discours, le chef de l'État a semblé conjuguer les tractations de la CENCO au passé. Peut-on comprendre qu'il met fin à la mission que lui-même avait confiée aux évêques catholiques? Comment comprendre, par son discours, que le seul et l'unique choix qui reste aux opposants et à la CENCO qui ne sont pas signataires de l'accord soit de les signer sans toute autre alternative? N'est-ce pas encore une façon de radicaliser de plus en plus les opposants qui pensent que l'élection présidentielle peut être organisée en 2017 au plus tard, ou les sceptiques comme la CENCO qui pensent qu'il y a défaut d'inclusivité? Ces discours n'augurent pas un lendemain meilleur.
Monsieur.
Je crois qu'il n'a pas tort. Quand vous suivez le discours du chef de l'État, et surtout quand il a parlé de l'attitude actuelle du Rassemblement, vous dites que probablement que là, il y a une rupture. Il y a une rupture, et que par rapport à cette rupture, il y a un Premier ministre qui va être nommé. Parce que probablement que le Premier ministre n'a pas été nommé, étant donné qu'il fallait donner la chance à la CENCO de faire ses navettes, ses va-et-vient avec le Rassemblement, et que maintenant que le Premier ministre va être nommé, ça veut dire qu'il y a rupture.
Il y a rupture Alors faudrait-il s'inquiéter par rapport au lendemain, comme le dit cet auditeur?
Bien sûr que oui. À partir du moment où il y a une rupture, ça veut dire que nous allons assister probablement à un jeu de ping-pong entre la majorité et l'opposition. Nous allons assister à un jeu où les acteurs ne dialoguent pas, et je crois que ça va aller dans tous les sens. Ce n'est pas, à mon avis, une bonne posture. C'est pas non plus, ça n'augure pas un bon lendemain, tant sur le plan des avancées démocratiques que sur le plan même des élections, parce que je crois que les élections le plus apaisées ne pouvaient avoir lieu que s'il y avait un consensus global et intégral de tous les acteurs. À partir du moment où il y a une partie des acteurs qui s'estiment ne pas être concernés par l'accord, cet accord n'est pas global.
Freddy Biamungu de Kinshasa dit « Le chef de l'État a tout de même fixé l'opinion sur les résultats de la mission confiée à la CENCO et malheureusement de qui nous n'entendrons rien. Je suis d'accord avec le chef que l'on ne doit pas prendre tout un peuple en otage et que le pays doit aller de l'avant avec ceux qui sont prêts. Une question cependant demeure, que faire pour résoudre la crise, professeur ?»
Alors, que faire pour résoudre la crise? Moi, j'ai toujours pensé que cette crise pouvait être résolue par le dialogue. Seulement, la conception du dialogue de la classe politique semble très éloignée de la du véritable dialogue démocratique. Un dialogue doit être un processus permanent. Il ne doit pas être un processus qui se déroule quand il y a blocage. La majorité au pouvoir aujourd'hui aurait dû maintenir le dialogue dès le départ. Il fallait, s'il y avait dialogue depuis longtemps, aujourd'hui on n'en serait pas arrivé là. Parce que sur toutes ces questions qui aujourd'hui divisent la classe politique, on aurait trouvé une issue. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'il y avait, à un moment donné, une rupture. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans le mode opérateur de la majorité, à un moment donné, on a vu que la majorité avait tendance à tout prendre, à tout gérer. Même les provinces où la majorité était minoritaire, on a vu le gouverneur de la majorité être. En ce moment-là, on a eu comme l'impression qu'il n'y avait plus de dialogue. La majorité s'est considérée comme étant, comme pouvant tout prendre. Et cette absence de dialogue, cette absence donc si vous voulez, d'autoroute de communication entre la majorité et l'opposition, ont fait qu'on aboutisse à là où on est aujourd'hui. Et maintenant, on a affaire à un dialogue des circonstances, parce qu'il y a une possibilité, dit-on, d'organiser des élections, et donc faisons rapidement, montons rapidement un dialogue. Ce sens-là qu'on accorde au dialogue, qui est contraire au dialogue de la démocratie. Un dialogue démocratique doit être un dialogue de type permanent. C'est de cette manière-là qu'entre les institutions, entre l'opposition et la majorité, on peut arriver à construire des véritables autoroutes de dialogue politique.
Professeur, certains analystes pensent que les deux camps jouent avec le feu. Avez-vous la même impression?
Alors, aujourd'hui, c'est véritablement le cas. Parce qu'à partir du moment où il y a rupture du dialogue, à partir du moment où chacun évolue dans son camp, chacun conçoit les choses de sa manière, Évidemment, on s'attend à ce que tout peut arriver, tout peut arriver.
Honorable Moussemena, est-ce que la nomination d'un nouveau Premier ministre va résoudre la crise actuelle, décrisper le climat politique actuel?
Je crois que l'accord au niveau de la Cité de l'Union africaine a été très clair et le chef de l'État a rappelé les missions de celui-là qui pourra avoir la chance d'être nommé Premier ministre. Quels étaient les problèmes et quel est le problème jusqu'à ce jour? C'est l'organisation des élections. Parce que mon frère et ami Piola l'a dit, il y a eu retard à un certain niveau. Il aurait même souhaité que le chef de l'État bouscule tout le monde. Si celui-là arrive à mettre les moyens, à créer les conditions nécessaires pour qu'on arrive à l'organisation des élections facilement, ce qui est sa mission, je crois que ça peut apporter un certain apaisement et ça peut calmer les esprits. Voilà pourquoi la méthanie du chef de l'État vis-à-vis de nos amis du Rassemblement qui ont toujours revendiqué le respect de la Constitution et la tenue des élections avait son sens, malheureusement. Malheureusement, ils n'ont pas compris que le peuple comptait aussi sur eux.
Et en guise de conclusion, honorable, comment vous entrevoyez l'avenir politique de la RDC dans ces circonstances?
Ce pays est un don de Dieu. Les Congolais ont besoin de la paix. Nous sommes convaincus que les Congolais de tous bords, à un certain moment, par sursaut d'orgueil, vont privilégier la paix à la place du chaos que cherchent à nous imposer nos amis du Rassemblement aujourd'hui.
Merci.
Mais même eux-mêmes, ils ont besoin de la paix. Peut-être qu'ils vont se raviser pour qu'ils rejoignent l'accord,
merci,
ils rejoignent l'esprit de Joseph Kabila, l'artisan de la paix.
Merci. Honorable Pouila, est-ce que le Rassemblement, finalement, ne va-t-il pas demeurer un boulet que traînera le président Kabila?
Nous pensons que Monsieur Kabila est à la croisée des chemins. Comme on dit dans la Bible, je mets devant toi la vie et la mort. Je vous demande de choisir la vie. Choisir la vie pour Monsieur Kabila, ce n'est pas jouer avec le feu. Fermer les oreilles par rapport à ces laudateurs, genre Toto Ndiona Nouté, on les a encore suivis aujourd'hui, qui ont en fait accompagné Mobutu dans sa tombe. Je vois en ce qui s'est fait aujourd'hui l'arrogance d'un certain Samuel Edo. Nous connaissons la suite des deux cas ici. Nous voulons, nous demandons la main sur la poitrine à Monsieur Kabila de comprendre qu'il n'est pas plus important que la République démocratique du Congo. Parce que nous, au Rassemblement, nous ne revendiquons pas, ce n'est pas notre objectif d'avoir la primature. Non, nous voulons que la Constitution soit respectée, c'est plus important. Et le peuple nous attend là-dessus. Parce que le peuple a dit non, si vous nous trahissez, c'est-à-dire respecter la Constitution. Comment, parce qu'on nous interpelle même, comment M. Kabila peut-il continuer à diriger même après le 19 décembre, alors qu'il sera fait mandat, avoir les mêmes prérogatives?
Alors qu'est-ce qu'il faut?
Alors il doit renoncer même au bénéfice de son statut de sénateur. À vie parce qu'il aura échoué.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour décrisper le climat politique actuel selon vous, brièvement?
Très bien, merci beaucoup. Pour décrisper la situation actuelle, M. Kabila n'a qu'à faire ce qu'a fait son homologue, son ancien homologue de Haïti, Philippe Martelly, en disant que nous avons fait ce que nous avons pu faire, n'ayant pas organisé les élections, je respecte la Constitution,
merci.
Je me retire pour que notre puisse faire ce que moi je n'ai pas pu faire.
Merci.
Et la République va continuer ainsi.
Professeur Félicien Kabamba, le Rassemblement, je posais la même question à l'honorable Pouila, ne va-t-il pas demeurer un boulet que traînera le président de la République?
Le Rassemblement va continuer à être un problème pour le pouvoir en place. Ça, il faut le dire. Parce qu'en fait, le Rassemblement va incarner une contestation. Et cette contestation, c'est tout ce que le pouvoir en place ne veut pas. Tout ce qu'il faut faire pour le moment, c'est de maintenir un dialogue. Il ne faut pas une rupture, il faut maintenir un dialogue. Et il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé. On n'instaure pas le dialogue, on n'appelle pas au dialogue quand il y a crise. Non, le dialogue est un processus, c'est quelque chose de continu. Il faut vivre la démocratie par le dialogue, dans le dialogue. C'est de cette manière-là qu'on peut arriver à bâtir véritablement une démocratie, bien sûr, une démocratie qui peut avoir des problèmes, mais ces problèmes sont résolus au travers d'un dialogue qui s'étisse entre l'opposition et la majorité.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Réalisation Guy Maté, assisté de Berry Franklin Luchaka. Mise en onde Paul Badianyama. Présentation et coordination Alain Irung Mouchinge. Merci de votre attention. Au revoir.